Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Journée internationale de la paix, c'est aujourd'hui 21 septembre, journée déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981. Thème de cette année, agissant pour un monde pacifique. En RDC, cette journée est célébrée dans un contexte marqué par l'insécurité dans certains coins du pays. Justice. Une dizaine d'hommes en uniforme condamnés à 20 ans de servitude pénale en Ituri. Jugement rendu vendredi à Bunia par le tribunal militaire. Les condamnés sont poursuivis pour viol et kidnapping des filles mineures. Et puis, l'invité de ce matin, Miani Bikenge Thomas, responsable du groupe scolaire Saint-Martin à Kindu. Cette école prend en charge gratuitement les frais scolaires des orphelins dont les parents sont morts du VIH-Sida. Il nous parle de cette prise en charge ainsi que des difficultés rencontrées. Madame, Messieurs, bonjour. Le monde célèbre aujourd'hui 21 septembre, la journée internationale de la paix, une journée déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est consacrée au renforcement des idéaux de paix. En République démocratique du Congo, la journée internationale de la paix est célébrée ce dimanche dans un contexte marqué par l'insécurité dans certains coins du pays, des troubles marqués par l'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC notamment. À Kinshasa, comme dans d'autres provinces, la MONUSCO organise une série d'activités pour marquer l'événement placé sous le thème « Agissons pour un monde pacifique ». Mais que savons-nous de la Journée internationale de la paix, Blaise Ndongala?
L'idée d'une journée mondiale dédiée à la paix a germé au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. En 1981, par sa résolution 36/67, l'ONU a déclaré que le jour de l'ouverture de sa session ordinaire, le troisième mardi de septembre, serait officiellement proclamé et observé comme la journée internationale de la paix. Cette première mouture de la journée était principalement conçue comme un moment de réflexion et de réaffirmation de l'engagement envers les idéaux de paix, coïncidant ainsi avec un moment clé du calendrier diplomatique international. Pendant près de deux décennies, la journée a été célébrée avec cette date variable servant de rappel annuel aux nations du monde leur engagement envers la charte des Nations Unies. Cependant, au tournant du nouveau millénaire, un mouvement a pris de l'ampleur pour donner à cette journée une portée plus grande et plus concrète. À ce jour, la Journée internationale de la paix est observée par des millions de personnes à travers le monde. C'est un moment pour l'humanité de mettre de côté ses différences et de se consacrer à la construction d'une culture de la paix. L'histoire de cette journée est la preuve que même les gestes les plus symboliques peuvent semer les graines d'un changement durable.
Et à l'occasion de la célébration de la journée de la paix, l'archevêque honoraire de l'église anglicane du Congo et évêque de Kindu lance un message. Monseigneur Masimango Katanda Zakari appelle la population à résister contre toute forme de génocide, oppression ou tuerie de masse. Ce responsable religieux invite en même temps les populations à une mobilisation pour la culture de la paix. Monseigneur Masimango s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Comme le thème de cette année ici parle de notre contribution pour rendre le monde pacifique. Et cette contribution ne passera que par des actions. Surtout, à ce qui concerne le génocide, il faut la contribution même des victimes par des résistances pacifiques, non violentes, et aussi par l'éducation des masses. Nous devons sensibiliser à nos populations à résister contre toute forme de génocide, d'oppression ou de tuerie à masse en vue de mettre fin à ces fléaux qui dominent maintenant le monde. Notre pays est témoin. Ce qui s'est passé à Beni, à Lubero, à Rutshuru, partout là-bas, même à Goma, ça fait partie du cadre de notre séminaire que nous avons eu là à Istanbul. Et nous avons eu comme devoir de vulgariser les différentes méthodes que le monde a toujours utilisées pacifiquement et qui a contribué à mettre fin au génocide, à l'écocide et aussi en tuerie à masse. La population ne doit pas continuer à rester passive. Nous devons résister et cette résistance-là commence d'abord par la prise de conscience. Et surtout, nous, en tant que leaders religieux, nous avons aussi organisé des séminaires et aussi des conférences pour éveiller la conscience de nos populations.
La journée de la paix est aussi célébrée dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Des centaines d'élèves du complexe scolaire Saint-Jean célèbrent en leur manière. Ils ont été sensibilisés ce week-end sur l'importance de la paix pour la coordonnatrice de l'ONG féminine Tendolaro. L'objectif est d'amener ces enfants à promouvoir la culture de la paix dans la communauté. Noëlla Nzalamangoudou explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes en train de vivre une période de turbulence, de l'incertitude et de sécurité. Raison pour laquelle nous avions essayé de sensibiliser les élèves sur la paix. Et notre objectif est de promouvoir la paix dans la communauté et partout où nous vivons, dans la ville de Beni et en périphérie. Pour la population de Beni, nous sensibilisons toute la communauté de consolider la cohésion sociale, à ne pas se rendre justice. Si nous vivons à paix avec nous-mêmes, nous allons vivre aussi la paix avec nos proches. Et quand nous cultivons la paix avec nous aussi, les proches ou les gens qui vivent dans la ville de Beni, comme c'est une ville cosmopolite, et s'il y a les gens qui sont soupçonnés, qui sont suspectés, il ne faut jamais se rendre justice parce que l'ennemi utilise les rumeurs pour nous détruire, pour que nous puissions avoir des conflits avec nous-mêmes et avec nos proches.
Justice, je vous l'ai dit dans les titres, 20 ans de servitude pénale, c'est la peine la plus lourde infligée vendredi à Bunia à plus d'une dizaine de prévenus par le tribunal militaire de garnison. Les condamnés sont poursuivis pour viol sur mineur. Le jugement a été rendu au cours des audiences foraines avec l'appui de l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, sauf et pas dit. Plus de détails avec Martial Kizabiamongo.
C'est devant des centaines de curieux qui se sont tenus ces audiences en chambre foraine devant le bureau administratif du quartier Bankoko à Bunia. À la barre du 7 prévenu, tous des hommes en uniforme. Après 3 jours de débat, le tribunal militaire a reconnu coupable une dizaine de prévenus pour avoir violé et kidnappé des filles mineures dont l'âge varie entre 9 et 16 ans à Mungwalu et à Mambasa en avril 2024. Une dizaine de prévenus ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison à 20 ans de prison ferme. Un prévenu a été acquitté pour preuve insuffisante et un autre âgé de moins de 18 ans a été renvoyé au tribunal pour enfants. Ces audiences pédagogiques ont bénéficié d'un appui financier de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral, sauf et pas dit, en collaboration avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'est dans le cadre de son projet de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette réalisation de la MONUSCO, elle a achevé la réhabilitation du mur de la clôture de la prison centrale de Kangbayi à Beni dans le Nord Kivu. Ce n'est pas tout. La mission onusienne en RDC a également doté cette maison carcérale des kits informatiques et solaires pour améliorer les conditions de travail du personnel. Une vraie joie pour les autorités locales qui saluent ce geste de la MONUSCO. Le point avec Marc Marofimbo.
Plus de 30 mètres de murs écroulés de la clôture de la prison centrale de Kangwai ont été réhabilités. Selon l'entreprise chargée des travaux, le mur était fragilisé par les eaux de pluie provenant des collines environnantes ainsi que par les eaux d'usage interne dépourvues des canalisations adéquates. Le projet comprenait également un kit solaire pour l'éclairage des cellules et de la clinique pénitentiaire ainsi que des matériels médicaux et informatiques. Le commissaire supérieur Nyofondo Tekodal Jacob, maire de Beni, a salué cet appui de la MONUSCO.
Vous savez que la MONUSCO, c'est notre partenaire de grande taille. On a perdu le mur depuis l'année passée et la MONUSCO nous a venu en aide et nous n'aurons plus l'hésitation pour que les détenus fouillent de l'autre côté. Ils ont fait aussi la canalisation et ce n'est pas seulement le mur. Il nous a amené encore le matériel informatique où il a doté la mairie, la prison, la justice. C'est quelque chose de très bien.
Financé par les fonds programmatiques de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, pour un coût d'environ 52 000 $ américains, ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Hope for Development in Africa sur une durée de 4 mois. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Direction la province de Lomami. Ici, près de 1000 personnes sont sans abri et cela dure depuis jeudi dernier à Lubao. À la base, une pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette partie de l'RDC, emportant les toitures d'une centaine de maisons de cette localité. Reportage de Esther Ndalafina.
Près de 1000 personnes passent la nuit à la Belle Étoile dans la localité de Lubao. La pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi dernier a causé des dégâts matériels importants, affirment les sources sur place. Les toitures de près de 140 maisons ont été emportées dans la nuit de mercredi à jeudi. 5 personnes blessées sont actuellement gardées à l'hôpital général de référence de Lubao. Un chef de famille sinistré sollicite une assistance humanitaire.
Nous étions enfermés avec les enfants dans la maison. Soudain, un vent violent a soufflé. Ma toiture a été emportée. Des briques se sont détachées du mur. Mes deux enfants ont connu des blessés graves et ils sont internés à l'hôpital. Tous les biens ont été détruits. Nous sollicitons une assistance auprès du gouvernement provincial et national.
L'administrateur de territoire a fait le dénombrement des familles sinistrées ce vendredi, mais aucune assistance n'est organisée pour venir en aide aux familles sinistrées. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, près de 200 femmes et jeunes filles victimes des inondations survenues au mois d'avril dernier dans la commune de Ndjili ont retrouvé le sourire. Elles ont bénéficié des vivres et non-vivres de l'organisation Afrian RDC avec le soutien de l'ambassade du Canada. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce week-end à la place Sainte-Trinité dans la commune de Matete à Kinshasa. Témoins de l'événement, Wamingi Tukulu et J.R. Kabamba.
Les bénéficiaires sont pour la plupart de vulnérables issus de plusieurs quartiers. Parmi elles se trouvent aussi bien les femmes vivant avec handicap, les femmes enceintes et les veuves. Elles ont reçu entre autres le matelas, bidons d'huile, riz, sucre, équipe menstruelle et autres. Un geste salué par les sinistrés.
On nous a conseillé, on nous a dit beaucoup de choses, de ce que nous aussi on ne connaissait pas. On a appris ça aujourd'hui. Donc, je vous demande merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Merci vraiment.
Pour leurs bienfaiteurs, cette assistance a pour but de redonner du sourire à celles qui ont tout perdu et de les soulager en attendant dans les jours meilleurs. Laurencine Nonga, des Afriance RDC.
Afriance RDC, c'est un réseau qui regroupe les organisations des jeunes œuvrant dans les secteurs de santé, de la reproduction, de l'éducation, de la communication pour le changement social des comportements. Ensemble, ces équipes étaient sur terrain pour identifier les ménages. C'est sur base de ces critères que nous avons retenu 100 femmes qui sont responsables des ménages et 100 jeunes filles qui vont bénéficier des kits des jeunes menstruels aujourd'hui pour les jeunes filles. Mais les vivres et les non-vivres, les femmes vont en bénéficier.
Au-delà de cette assistance, les jeunes filles ont été sensibilisées sur l'hygiène de vie.
Autre nouvelle, l'ONG River Cleanup incite la population quinoise à adopter une politique responsable de gestion des déchets dans son environnement. La coordonnatrice de cette structure, Fanny Salmon, explique que cet appel s'inscrit dans le cadre de la journée Cleanup Day 2025 visant à soutenir le projet d'assainissement de la ville de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, précise qu'il ne s'agit pas seulement de ramasser les déchets, mais également de changer de mentalité et de comprendre que l'assainissement est l'affaire de tous. Plus de détails avec Blaise Ndongala Maenda.
À travers une opération de nettoyage citoyen, au moins 1255 kilos de déchets ont été collectés dans les quartiers Montbélé, dans la commune de Limété. L'initiative a été menée par l'ONG Roi Vert Cleanup DRC en collaboration avec les projets Assainir Kinshasa soutenus par l'ambassade des Pays-Bas et UN Global Compact. Les responsables des Roi Vert Cleanup DRC a qualifié cette action d'un acte de dignité et de solidarité. Il a encouragé la population à transformer les défis des déchets en opportunités locales, notamment par la valorisation des plastiques en produits utiles.
Les déchets ne sont pas qu'un problème. Ils peuvent devenir une opportunité, créer des emplois, transformer les plastiques en produits utiles.
Pour l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas en RDC, l'assainissement des milliers contribue non seulement à l'embellissement de l'environnement, mais également à la prévention des maladies liées au manque d'hygiène.
Nettoyer nos rues, les espaces publics, c'est aussi un geste qui va permettre d'assurer notre santé.
De son côté, le ministre provincial de l'Environnement de Kinshasa a appelé les citoyens à adopter de bons gestes au quotidien et à éveiller leur conscience collective face aux enjeux environnementaux. Il convient de rappeler que la mauvaise gestion des déchets favorise la pollution de l'air, la propagation des maladies et représente une urgence environnementale majeure.
Actualité internationale. Les Guinéens se rendent aux urnes ce dimanche 21 septembre pour voter oui ou non au projet d'une nouvelle constitution. Le texte vise à remplacer la charte de la transition en vigueur depuis le coup d'État du 21 septembre 2021 et qui a vu Mamadi Doumbouya renverser le président Alpha Condé. Plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes sur les 14,5 millions que compte le pays. Ce scrutin marque une étape clé de la transition vers un retour à l'ordre constitutionnel. En colère contre l'accord migratoire conclu entre leur pays et les États-Unis, les manifestants pro-démocratie des Swatini ont battu le pavé vendredi devant l'ambassade américaine à Pretoria en Afrique du Sud. Ils s'opposent à l'accueil par leur pays des migrants expulsés des États-Unis. L'argent promis par Washington dans le cadre de cet accord irrite aussi les manifestants.
L'invité.
Il s'agit de Miani Bikenge Thomas, responsable du groupe scolaire Saint-Martin à Kindu dans le Maniema. Cette école prend en charge gratuitement les frais de scolarisation des orphelins dont les parents sont morts du VIH-Sida. Il nous explique comment ils prennent en charge ces enfants vulnérables ainsi que les difficultés rencontrées. Miani Bikenge s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Miani Bikenge Thomas, bonjour.
Bonjour madame.
Depuis 2014, vous prenez en charge les orphelins du VIH-Sida. Dites-nous, c'est quel type d'assistance que vous accordez à ces enfants vulnérables?
Nous prenons en charge les frais de scolarité. Donc ils étudient au groupe scolaire Saint-Martin gratuitement.
Quand ils étudient gratuitement, c'est à quel niveau? Maternel, primaire ou secondaire?
Il s'agit de l'école maternelle, primaire et secondaire.
Pourquoi se limiter seulement à ces niveaux?
C'est parce que c'est ça notre capacité. C'est ça notre possibilité. On n'a pas assez de moyens pour continuer à les prendre en charge au niveau universitaire.
Depuis que vous avez commencé cette école, cette année vous êtes à la 11e année. Combien d'enfants avez-vous déjà supporté? Actuellement, ils sont à combien?
Actuellement, on est au-delà des centaines d'enfants parce qu'on avait commencé avec 25 enfants en 2014. L'année passée, on a terminé avec 67 enfants. Mais sinon, parmi eux, il y a ceux qui nous ont déjà quittés sur cette terre, ceux qui ont déjà quitté la ville de Kindu, ceux qui ont déjà terminé les études secondaires. Et aussi, parmi eux, il y a ceux qui ont abandonné les études.
Parmi eux, il y a ceux-là qui ont déjà décroché leur diplôme, comme vous venez de le dire. Quand ils décrochent leur diplôme, qu'est-ce qu'ils font?
En tout cas, jusque-là, les statistiques que nous avons, nous sommes déjà aux vingtaines d'enfants, orphelins, divers et sida, qui ont eu à arracher leur diplôme d'État au sein de notre établissement depuis 2014 à nos jours. Mais ces enfants-là, on voit certains dans la rue, certains sont devenus taximènes, d'autres sont... En tout cas, ils n'étudient pas. On ne les voit pas étudier au niveau universitaire.
Les groupes scolaires Saint-Martin, est-ce que vous avez un orphelinat où vous gardez ces enfants pour bien le suivre?
En tout cas, le groupe scolaire Saint-Martin n'a pas un orphelinat. C'est ça notre d'ailleurs souci. Mais sinon, le groupe scolaire Saint-Martin a déjà eu un don de services de titre immobilier. On nous a octroyé un terrain qui peut servir d'un orphelinat, mais faute de moyens, jusque-là, on n'a pas encore eu la possibilité de leur construire un orphelinat.
Alors, depuis que l'année scolaire 2025-2026 a débuté, est-ce que les enfants orphelins du VIH-Sida poursuivent normalement leurs études? Est-ce qu'ils ont repris normalement les cours comme les autres?
On a fini l'année passée avec 67 enfants orphelins du VIH-Sida. Mais cette année, jusque-là, il n'y a que 14 qui se sont déjà présentés. Néanmoins, comme d'habitude, souvent ces enfants reprennent leurs études avec un tard faute de quitter scolaire. Là où ils sont logés, leurs responsables, souvent ils commencent d'abord par acheter les kits scolaires de leurs enfants et souvent on les achète au dernier lieu. Voilà pourquoi ces enfants souvent reprennent chez nous avec un léger retard les études.
Est-ce que l'école Saint-Martin éprouve des difficultés en prenant en charge ces enfants?
Oui, les difficultés que nous avons, c'est d'abord pour les octroyer les kits scolaires, leur prise en charge médicale, donc la prise en charge holistique, globale, leur vie sociale. En tout cas, ça, on ne le sent pas. Nous, juste, on s'est limité à prendre en charge leurs frais. Mais le reste de la vie sociale, vraiment, on n'a pas cette possibilité. Voilà, on les trouve souvent un peu démunis là. Ensuite, là où ils viennent étudier, les bâtiments que nous avons sont menacés par une érosion. Alors, nous, on n'a pas vraiment la capacité de répondre à ces érosions, d'autant plus que c'est un peu profond. Néanmoins, nous lançons ces plaidoyers. Vraiment, on commence par le gouvernement provincial, national, mais aussi les personnes de bonne volonté, vraiment de nous venir en assistance, afin vraiment de nous construire ce canal qui menace le bâtiment. Si ce bâtiment s'écroule, vraiment on ne saura pas comment on peut prendre les études encore gratuites des enfants orphelins divers accidents que nous avons commencé depuis 2014.
Alors, il y a que l'école Saint-Martin qui prend en charge les enfants orphelins du VIH SIDA ici.
Jusque là, madame, toute la province, j'ai fait le monitoring. Aucune école ne s'occupe de la prise en charge des enfants orphelins du VIH SIDA, leur scolarité. C'est pour cela que nous continuons à lancer vraiment les SOS avec l'érosion là qui menace nos bâtiments. Si vraiment ça parvient à écrouler ces bâtiments, vraiment je ne sais pas ces enfants pourront encore aller étudier où. Parce que jusque là, il n'y a que Saint-Martin qui s'occupe de la prise en charge gratuite des études maternelles, primaires, secondaires des enfants orphelins du VIH SIDA dans la ville de Kindu, mais aussi à travers la province.
Monsieur Miani Bikenge Thomas, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Le responsable du groupe scolaire Saint-Martin à Kindu répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.